Shalom et bonjour tout le monde. Étant donné que nous sommes aujourd'hui le 9 Tevet, et c'est donc la veille du 10 Tevet, étant donné que du point de vue mathématique, 9 est égal 10 moins 1, le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, d'après ce qu'on m'a demandé, c'est la Shoah. Quel est le rapport? Le 10 Tevet est un jour de jeûne qui a été institué par les prophètes pour commémorer, enfin, c'est-à-dire pour rappeler le début du siège contre Jérusalem par le roi Nabucodonosor. Et ce jour a été institué beaucoup plus tard par le grand rabbinat d'Israël comme étant le jour du Kaddish général. C'est quoi le Kaddish général? Si quelqu'un a perdu un de ses proches pendant la Shoah et qu'il ne connaît pas la date de sa mort, eh bien, il récite le Kaddish le 10 Tevet. C'est ce qu'on appelle le Kaddish Haklali. Depuis, il y a un regain donc d'intérêt pour le 10 Tevet, puisqu'il ne commémore pas seulement un événement de la haute antiquité, il commémore également la Shoah, indépendamment du jour qu'on appelle également Yom HaShoah, le jour de la commémoration de la Shoah en général en Israël, mais il y a également l'élément religieux, si vous voulez, qui est lié au 10 Tevet. Et donc, la Shoah doit être traitée, il s'agit d'un des événements les plus catastrophiques de notre histoire, il concerne, disons, directement un tiers du peuple juif qui a disparu dans la tourmente, mais ça concerne tous les juifs, quels qu'ils soient, dans le monde entier, étant donné que c'est un événement traumatique, très proche de nous, et qui, comme par hasard, se situe juste un peu avant la fondation de l'État d'Israël. Oui. Alors, pourquoi pas Tisha B'Av? Effectivement, Tisha B'Av a été proposé. A été proposé par pas moins que le premier ministre israélien, Menachem Begin, qui avait proposé Tisha B'Av, ça a fait un tollé, pour des raisons justifiées ou injustifiées, peu importe, de toute façon ça n'a pas marché. Voilà. Bon. C'est vrai que Tisha B'Av aurait très bien pu correspondre, étant donné que par exemple la conférence de Wannsee, où les nazis ont décidé la solution finale, c'est, je crois que c'était tombé à Tisha B'Av, comme par hasard. Donc, je crois. Hein. En tout cas, ça aurait donc pu être ça. En tout cas, la Shoah pose, évidemment, indépendamment de la catastrophe elle-même, pose des questions théologiques et morales et autres. Et il y a toujours un problème quand il s'agit de parler de la Shoah, surtout s'il s'agit de donner des explications. Alors là, ça crée deux genres de réactions. Il y en a qui disent « Ah, des explications, ben, j'en veux ». Il y en a qui disent « Des explications, j'en veux pas ». D'accord ? Vous avez deux types de réactions. Et j'ai l'habitude de faire la division suivante. Il s'agit en fait de deux sortes d'auditeurs. Il y a l'auditeur qui vit existentiellement la Shoah, et il y a celui qui ne la vit pas existentiellement, mais qui est, disons, comme on dit en français moderne, aujourd'hui interpellé par la chose. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un vit la Shoah, et ce n'est pas forcément parce qu'il l'a vécu personnellement dans son être, dans sa famille ou etc. En tout cas, il ressent la brûlure cuisante de la Shoah. Alors, ce genre de cours ne sont pas faits pour lui. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Il y a un livre dans la Bible, le livre de Job, en hébreu, Iov. Livre de Job, qui traite de la souffrance du juste. Iov est un juste, un tzaddik, un des plus grands de l'histoire, et il lui arrive tous les malheurs du monde. Voilà, tous les malheurs du monde, il perd tous ses biens, tous ses enfants, au nombre de 10, sa santé, il en est à se gratter avec un tesson dans les cendres, enfin bref, la situation est très mauvaise, et lui, il dit, mais c'est pas juste, voilà. Je ne méritais pas ça, il n'y a pas de justice dans le monde, c'est un scandale ce qui m'arrive, alors que je suis un tzaddik, on me fait tout ça. Voilà. Et dans le livre de Job, on nous raconte qu'arrivent ces trois amis, qui s'appellent Eliphaz, Tsophar et Bildad. Eliphaz, Tsophar et Bildad, ça associe un quatrième personnage qui s'appelle Elihu. Mais les trois premiers, c'est eux qui prennent la majeure partie du livre et ils ont des discours. Ils expliquent à Job, qui est donc assis au sol dans tous ses malheurs, ils viennent lui expliquer pourquoi ça lui arrive. Voilà, ils disent, voyez donc, ils sont bien bien gras. On peut se les représenter comme ça, bien à l'aise, content de la vie, etc. Et puis, il vient expliquer à Yov, tu sais, nous sommes venus t'expliquer pourquoi ça t'arrive. Et alors, Eliphaz dit, ben, c'est parce qu'il y a certainement un péché auquel tu n'as pas fait attention, et il y a quelque chose chez toi qui n'est pas bécédère, il faut absolument que tu t'en occupes. Ouais, tu vas t'en occuper, tu vas voir que Dieu va te ramener tout. Et puis l'autre, Bildad, il dit, non, c'est pas parce que tu as un péché, mais c'est parce que Dieu veut ton bien. Et que donc tu vas avoir un Olam Haba super après toutes les souffrances que tu as, ton Olam Haba, génial. Et puis il y a Tsofar, qui est un peu philosophe, comme ça il dit, tu sais, les voies de la providence sont impénétrables. Et ils ont des longs discours, très bien écrits. Oui. Quand on veut consoler quelqu'un, ben c'est ce qu'on va lui dire, justement, voilà. Alors, comme par hasard, ça se trouve dans la Bible aussi. Et Yov n'est pas du tout content. Il réfute les discours de ses comparses, les uns après les autres. Il y a là-bas, trois fois les discours reviennent, ça fait donc énormément de chapitres. Et Yov, de manière systématique, dit ce que vous dites, c'est n'importe quoi. Et l'argument de Yov est toujours le même. Oui, mais je souffre. Voilà. Si vous souffriez ce que moi je souffre, eh bien vous ne diriez pas des choses pareilles. Bon. Et puis à part ça, moi je suis un sadique. Donc je ne mérite pas tout ça. Bon, finalement il se taise. Et alors intervient Elihu, qui lui aussi essaye. Et Yov ne lui répond pas. Alors, il y a tout un débat dans les commentateurs pour savoir qu'est-ce que pense Yov de ce que dit Elihu, puisqu'il ne lui répond pas. Et puis après, Dieu lui-même parle à Yov, il apparaît, il intervient, et il lui pose une cinquantaine de questions. 50 questions auxquelles Yov ne répond pas, et auxquelles probablement il ne peut pas répondre. Comment ? Pourquoi c'est un rêve ? C'est une révélation prophétique, il prophétise. Et Yov réagit, il dit, « Ah, maintenant j'ai compris. » Et alors, Dieu se révèle à Eliphaz, le premier des trois amis de Yov. Il lui dit, « Vous avez mal parlé, vous n'avez pas aussi bien parlé que mon serviteur Yov. » Maintenant, allez lui demander pardon. Et Yov prie pour eux. Yov retrouve sa santé, il retrouve ses enfants. Il retrouve ses richesses et il finit une vie, et il a une vie heureuse. Il vit encore pendant 140 ans et il a une vie heureuse. Voilà. C'est ça l'histoire de Yov. Alors, bon, vous comprenez que les commentateurs se sont tous attelés à cette tâche difficile de comprendre ce que veut dire le livre. En tout cas, ce qui est problématique, c'est que c'est la réprimande de Dieu contre Eliphaz. Il lui dit, tu as mal. Tu as mal expliqué, tu as mal parlé. Pourtant, Maïmonide nous dit que Eliphaz donne l'opinion de la Torah. C'est quoi l'opinion de la Torah ? C'est qu'il n'y a pas de souffrance sans péché. Qu'il n'y a pas de souffrance sans péché. Alors dans ce cas-là, Eliphaz a raison, alors qu'est-ce qu'on lui veut ? Eh bien, le Rambam dit un truc tout bête, hein. Il dit c'est parce qu'il n'aurait pas dû parler quand Yov était en train de souffrir. Il y a une règle, c'est qu'on ne console pas quelqu'un avant l'enterrement. Donc quand quelqu'un vit de manière cuisante une souffrance, il ne faut pas intervenir. Ah bon ? Mais pourquoi pas, après tout. Et ça voudrait donc dire qu'il y a l'opinion de la Torah, mais que parallèlement à ça, je veux dire quelque chose de dangereux, il y a l'opinion d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que quand quelqu'un est dans la souffrance, il n'est pas fait pour écouter des explications. Donc il est fait pour autre chose. C'est-à-dire s'il y a une situation dans la vie humaine où on n'est pas capable d'entendre une explication, c'est pas que l'explication n'est pas vraie, mais ça veut dire que l'explication n'est pas faite pour celui qui souffre. Elle est faite pour l'observateur. Celui qui souffre, il a un dialogue privilégié, particulier avec le Créateur, c'est intime, il ne faut pas se mêler. Alors, imaginez-vous, qu'est-ce qui se serait passé si Yov avait une réaction religieuse et soumise ? Il aurait écouté les discours de Eliphaz, Bildad et Tsophar. Il leur aurait dit, écoutez, c'est extraordinaire ce que vous m'avez expliqué là. Kvodara Eliphaz, hein, et puis le Chacham HaShalem Bildad, et le grand penseur Tsophar, Vous êtes extraordinaire. Vous êtes venu à la Shiva. Vous avez expliqué pourquoi ça m'arrive. Et donc, je vous suis très reconnaissant d'avoir donné une explication satisfaisante. Et tout le monde aurait fait Rabbi Hanania ben Akashia, le Kaddish de Rabbanan. Ils auraient mangé ils auraient fait quelques brachot à la mémoire des enfants de Yov. Et ils se seraient séparés. Et qu'est-ce qui se serait passé après? Eh bien, Dieu n'aurait pas parlé à Yov. Alors, heureusement qu'il a refusé les explications. Parce que, grâce à ça, il est arrivé à un niveau supérieur de compréhension. Et donc, dans son dialogue avec le Kadosh Baruch Hu, avec les 50 questions que Dieu lui pose, Yov a compris quelque chose, mais qui était réservé seulement à lui. Une des choses qu'il a compris, probablement, c'est que les souffrances venaient, entre autres, pour qu'Akadosh Baruch Hu puisse lui parler. Donc, je reviens à notre sujet de la Shoah. Oui, vas-y. À Yov, oui, bien sûr. Oui, alors il y a un problème. Comment sait-il que Dieu lui a parlé alors qu'il devait être triste, probablement? Bon, ça c'est un problème pour Yov. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que ce qui ressort de tout ça, c'est que pour la Shoah, c'est toujours le même problème. Est-ce que l'on parle d'une expérience vécue? Si c'est une expérience vécue, alors tous les cours et toutes les explications sur la Shoah n'ont pas cours. Tandis que s'il s'agit de quelque chose de, disons, des questions qu'on se pose en tant que recherche intellectuelle ou de Emouna, etc., alors il y a un sens au discours sur la Shoah, et donc il faut faire cette séparation. Donc ceux qui ressentent de manière cuisante la Shoah sont priés de quitter la salle, parce qu'ils vont entendre des choses intolérables. Maintenant que c'est fait, nous allons donc continuer. Il y a, au niveau purement religieux, on peut se dire, alors il y a une tentation extrêmement dangereuse chez les religieux, qui est d'expliquer la Shoah dans le cadre de ce qu'on appelle Sachar Va'onesh, c'est-à-dire la rétribution. Puisque nous avons une grande règle dans la Torah, c'est que quand on se comporte mal, Dieu nous punit, et quand on se comporte bien, Dieu nous récompense. Donc si ça a été quelque chose d'aussi terrible, c'est donc qu'on le méritait bien, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle une tentation de devenir l'avocat d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu risque de perdre son procès, alors il faut absolument le sauver, donc je me porte volontaire pour être son avocat et expliquer qu'il avait raison de laisser tuer 6 millions de ses enfants. Et alors, on dira des bêtises dans le genre, ben voilà, c'est parce que les Ashkenazim, eux, ils parlent pendant la répétition de la Amida, et donc ils le méritaient bien, quoi, hein. 6 millions, d'accord? Un truc comme ça. Je rigole pas, ce sont des choses qui ont été dites, hein. Il y a des gens qui ont dit ça. Hein. C'est parce qu'on parlait pendant la Hazara. Hein. Et comme les Sfaradim ne parlent pas pendant la Hazara, donc ça leur est pas arrivé. Hein. Ça tient la route? Mais on pourrait. Disons que même si on dit autre chose, on peut dire, voilà, il y a une quantité de péchés. Depuis quand même la destruction du temple, il s'est passé entre la destruction du temple et la Shoah, quelque chose comme 1850 ans. Pendant 1850 ans, il y a quand même une accumulation de péchés, non? Hein? Celui-là, il a dit du Lashon Hara, celui-là, il a mangé pas cachère, celui-là, il a fait transgresser le Shabbat, celui-là, là, il a fait ça, etc. Alors, si vous accumulez tous ces péchés-là, pendant tout ce temps-là, ça fait un gros paquet, n'est-ce pas? Alors, en une fois, trac, on a payé la dette, hein, 6 millions de morts, et puis maintenant, ça recommence. Alors, il y a un rabbin qui, il y a quelque chose comme 20 ans en Israël, a fait une déclaration publique disant que, bon, la Shoah, elle a réglé le problème de la Midatadine, mais maintenant que les gens transgressent le Shabbat et qu'ils mangent à Kippour, etc., etc., alors ça risque de revenir. Hein, faites attention. Hein, faites teshuva, parce que sinon vous allez avoir une deuxième Shoah. Ces paroles ont été très mal acceptées en Israël, et je pense d'ailleurs de manière justifiée. Mais il faut comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est inacceptable? Parce que ça voudrait dire, en fait, que Dieu est un démon. C'est-à-dire qu'il est une sorte de monstre qui entretient des comptes. Voilà. Alors, vous me devez tant et tant. Ah oui, ben, écoutez, il y a un moment où c'est trop. Voilà. Ben, il faut bien comprendre que, en fait, selon la tradition intérieure du judaïsme, ce qu'on appelle Sachar Va'onesh, ou selon l'expression du Ramchal, Anhagat Amishpat, le fait de juger en fonction de la justice, enfin, le comportement selon le jugement, ce n'est qu'une dérivée d'une hanaga, d'une providence beaucoup plus large, qui a des intérêts. Les intérêts de la providence ne sont pas de punir ou de récompenser. Les intérêts de la providence sont la révélation de l'unité de Dieu dans le monde, et cette révélation passe entre autres par la rétribution. Mais ce n'est pas toujours. Je vais vous donner un exemple tout bête. Si un juif pratique l'idolâtrie, qu'est-ce qu'on lui fait? On le lapide. D'accord? Si deux juifs le font, on en lapide deux. N'est-ce pas? Si 1000 juifs ont pratiqué l'idolâtrie, on en lapide 1000. Et si c'est tout le peuple juif, on n'en lapide aucun. On n'en lapide aucun. Non, tout simplement parce que si, Chas v'Shalom, on en venait à faire disparaître le peuple d'Israël, eh bien les intérêts de Dieu seraient compromis dans l'histoire. Donc, pour des raisons supérieures, la règle de la justice ne sera pas appliquée. Non pas parce que la morale est suspendue, mais c'est parce qu'il y a une considération d'ordre beaucoup plus importante qui entre en jeu. Ça ne veut pas dire que les pécheurs ne seront pas punis le moment venu, mais il y a des intérêts divins dans l'histoire qui sont d'une beaucoup plus grande importance que le problème de la rétribution. Et ça, on comprend très bien que des événements tels que la destruction du temple, la sortie d'Égypte, la Shoah, la fondation de l'État d'Israël, appartiennent à ce type d'événements qui ne relèvent pas de l'équation habituelle. Et cette équation, donc, il faut comprendre de manière beaucoup plus générale l'ensemble de l'histoire, quelle est la structure de l'ensemble de l'histoire, et c'est peut-être comme ça que quelque chose peut être compréhensible. Vas-y. Je pense que le problème de la Shoah ne s'introduit pas dans la question du péché. C'est-à-dire, il n'y a pas de péché au monde, de faute au monde qui justifierait cela. Donc dès qu'on essaie d'introduire ça dans la justification, on fait une caricature. Alors ça ne veut pas dire qu'au niveau individuel, telle ou telle personne n'a pas été jugée à son niveau individuel dans le cadre de la catastrophe. Mais on ne peut pas comprendre la catastrophe elle-même comme s'insérant dans le cadre de la punition, de la rétribution, etc. D'accord ? C'est-à-dire, il faut bien comprendre qu'il y a une proportion aux choses. Alors, on peut dire, j'ai dit du mal de mon prochain, je me suis coupé le petit doigt. Bon, il y a un rapport, ça peut arriver. Mais si j'ai parlé pendant la répétition de la Hamida, ce qui est très grave, hein, soyons passants, et à cause de ça, une bombe atomique est tombée sur Ramat Gan, alors il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord ? Il y a une proportion intolérable, il faut savoir que ça existe. À moins qu'on dise, oui, mais on ne comprend pas. Bon, on ne comprend pas, alors on peut aussi se taire, si on ne comprend pas. Donc, parce que tout, on ne comprend rien, sauf le fait que c'est une punition. Ça ne va pas la tête. Donc, il faut comprendre ça de manière différente. Il y a d'ailleurs des tas de tentatives. Par exemple, il y a la thèse du rabbi de Satmar qui dit, la Shoah, c'est passé à cause du sionisme. Le sionisme était un péché, on n'avait pas le droit de fonder un État, on a commencé l'entreprise du sionisme, tu vois bien ce qui s'est passé. Voilà. Pour le rabbi de Satmar, tout est clair. La Shoah, c'est la punition du sionisme. Il y en a d'autres qui disent exactement le contraire. La Shoah, c'est parce que le peuple n'a pas été sioniste. C'est parce que le peuple n'est pas venu en Israël qu'il a mérité donc cette catastrophe. Il y en a qui vous diront, non, c'est pas à cause de ça. C'est parce que il y a eu la critique biblique. Voilà. La critique biblique, elle a commencé en Allemagne. Eh bien, il faut bien avoir des raisons à ça, d'accord ? Donc, pour punir le peuple juif de la critique biblique, eh bien, il y a eu la Shoah. Je vous en passe, il y a encore d'autres explications de ce genre. Elles sont toutes fausses pour une raison très simple. C'est qu'elles introduisent quelque chose d'incommensurable dans le mesurable. On essaie de mesurer quelque chose d'énorme avec un petit ruban de 2 mètres. Vous voyez ? Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est par hasard que la Shoah est arrivée en Allemagne. C'est-à-dire, si la Shoah déjà avait un sens et pouvait se produire, alors ça passe à travers un certain endroit. Ça peut se passer à travers, par exemple, le pays où la critique biblique a été entretenue. Mais ce n'est pas par là que ça commence. En fait, il y a dans la Torah, plusieurs fois, il est question d'une éventualité d'extermination du peuple juif. Ça apparaît plusieurs fois. Ça apparaît d'ailleurs, entre autres, lors de la faute du veau d'or. Mais ça apparaît également dans la paracha de Ahazinu, dans le discours de Moshe avant sa mort. Et puis, il y a également des textes beaucoup plus explicites. Par exemple, je voudrais vous en citer un, celui du livre de Daniel au chapitre 12. Vous vous rappelez, non? Chapitre 12, verset 1, dans Daniel. Mais si. Comment? Les monstres, non, ça c'est avant. Non, non. C'est pas mal, la tentative était bonne. Je vais vous lire ça dans le livre de Daniel, chapitre 12. Uvaetai, en ce temps-là, Yahamod Michael Asaragadol, se lèvera Michael, le grand prince, l'archange Michael. Haomed al-Bene Amecha, qui se tient sur les fils de ton peuple. Vehayeta et Tzara, et viendra un moment de malheur, Asher Loniyeta, comme il n'y en a pas eu, Miyot Goy Adaetahi, depuis l'existence d'une nation jusqu'à ce temps-là. Uvaetahi, et à ce moment-là, Yimalet Amecha, ton peuple sera sauvé. Kol Hanimtsa Katuv Basefer, tous ceux qui seront inscrits dans le livre. C'est-à-dire, viendra à la fin de l'exil, le moment le pire de notre histoire, c'est écrit en fait dans Daniel, mais à ce moment-là, seront sauvés parmi le peuple ceux qui seront inscrits dans le livre. C'est clair, non? Dans quel livre? Eh bien, vous n'avez qu'à lire dans le livre de Zecharia. Zecharia le dit en toutes lettres. Ve'aya hanishar bitzion vanotar birushalayim, kadosh yamerlo, ceux qui resteront à Sion et qui seront restés à Jérusalem, ils seront déclarés saints, kol hakatuv lechaim birushalayim. Tous ceux qui sont inscrits pour la vie sont à Jérusalem. Ça veut donc dire que le prophète est explicite, la Shoah n'aura pas lieu en Eretz Israël. C'est ça? C'est-à-dire la Shoah peut avoir lieu, mais pas en Eretz Israël, parce que il y a une protection particulière. Vous savez que pendant la Shoah, effectivement, les troupes allemandes ont failli faire la conquête d'Eretz Israël, ça n'a pas marché. Mais il y a eu la peur. Il y a eu une peur terrible à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est écrit dans la paracha de Hazinu, dans le discours de Moshe avant sa mort, quand il dit « Michutz teshakel cherev ou mechadari meima » « À l'extérieur, l'épée détruira, et à l'intérieur, il y aura la terreur. » C'est-à-dire qu'à l'extérieur, c'est quoi l'extérieur dans le langage de Moshe? C'est l'extérieur d'Eretz Israël, c'est donc Houtz Laaretz, et là-bas, il y aura donc extermination. Mais, Mechadarim, dans l'intériorité, il y aura simplement peur. Gam Bahur, Gam Betula, Yonek Miseva, les jeunes et les vierges, les nourrissons et les vieillards. C'est écrit en toutes lettres. Hein, bon. Mais alors, dans ce cas-là, ça veut dire que la Shoah, est-ce qu'elle était obligatoire? Pas forcément. Dans tous les textes, parce que dans tous les textes qui parlent de la fin de l'histoire, il est toujours question de deux choses, de la fondation de l'État d'Israël et de la Shoah. Seulement, à chaque fois que nos maîtres et les prophètes ont parlé de la fondation de l'État d'Israël, ils en ont parlé en toutes lettres et de manière très claire. Ils ont annoncé, un jour viendra, nous reviendrons à notre indépendance en Eretz Israël, ça c'est écrit. Mais quand il est question de la Shoah, c'est toujours à mots couverts. C'est très rare que nos maîtres aient parlé de manière explicite, de manière totalement claire de la Shoah. Il y a deux... Dans Kita, oui, mais toujours à Dishamdar, jusqu'à ton extermination. Mais c'est toujours à mots couverts quand même. Il y a deux raisons à cela. Tout d'abord, par politesse envers Akadosh Baruch Hu, il ne faut pas dire trop de mal de lui. Et puis... Il y a une autre raison beaucoup plus importante qui est que l'État d'Israël, c'est une nécessité irrévocable, parce que Dieu a promis. Il a promis de nous ramener en Eretz Israël. Donc ça ne peut pas ne pas se passer. Mais la Shoah, ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, l'histoire peut se passer sans la Shoah. Il n'y a aucune promesse divine que la Shoah va se passer. Ça veut donc dire qu'elle est évitable. Mais elle peut se produire. Et il est important de comprendre quelles sont les situations historiques où ça peut se produire. Parce que ce n'est pas à tout moment de l'histoire que ça peut arriver. La Torah nous dit, « Zachor et asher asa lecha Amalek. » Souviens-toi de ce que t'as fait Amalek. Amalek, c'est celui qui tente effectivement la solution finale. Pourquoi est-ce qu'il faut se souvenir? on se souvient de quelque chose qui n'est pas permanent. C'est-à-dire, si on doit se souvenir, c'est que il faut savoir quelles sont les règles des moments de l'histoire où ça peut se passer, pour qu'au moment où ça peut se passer, qu'on soit prêt. D'accord ? Et c'est pas à tout moment que ça se passe. Alors, que dit la Torah ? À quel moment ça se passe ? Zachor et Asher Asalecha Amalek, souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek. La suite ? Baderer. Lorsque tu étais en chemin. Ah, là, il y a déjà une indication très importante. Ça se passe quand on est en chemin. C'est-à-dire que quand on était en Égypte, par exemple, dans l'esclavage d'Égypte, Amalek ne pouvait rien contre nous. Parce qu'on était protégé par qui ? Par Pharaon. Le Pharaon, il a un contrat avec nous. Il nous a servi. Il nous opprime. Alors Amalek ne peut pas se mêler. N'est-ce pas ? Et puis, il y a un autre moment, c'est quand on est en Eretz Israël, on a le temple, on a nos rois, David, Salomon, etc. Puissance d'Israël, Amalek ne peut rien faire. Alors, à quel moment il peut intervenir ? Dans l'interstice. Entre l'Égypte et Jérusalem, c'est là qu'Amalek s'introduit. Il y a un verset qui dit que viendra un jour « Vela yotze vela ba en shalom » que ceux qui sortent et qui rentrent n'auront pas de paix. Alors la Gemara dans Maseret Chagiga, nous c'est quoi celui qui sort et qui rentre ? C'est celui qui passe d'un Talmud à l'autre. C'est quoi le Talmud ? Quels sont les deux Talmuds ? Celui de Babylone et celui de Jérusalem. C'est-à-dire au moment où on passe de la fin de la Galoute au retour en Eretz Israël, il y a un danger. Amalek peut apparaître. Et donc, il faut être préparé à ce moment-là. C'est le moment où il peut s'introduire. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il peut s'introduire ? Pour une raison très simple. C'est qu'au moment, tant qu'il y a la galoute, il y a une promesse divine que la Shoah n'arrivera pas. Ve'af gamzot biyotam be'eretz oyvehem, c'est dans le livre de Vaïkra, dans la paracha de Bechukotai. Il dit, et en plus de cela, tant qu'ils devront être dans le pays de leurs ennemis, Vaf Gamzot Biotam Beretz Oivehem, l'homme et Astim, je ne les ai pas rejetés. Veloge Altim, je ne les ai pas méprisés. Les affaires, les Chalotam, au point qu'ils soient détruits. Les affaires Biriti Itam, parce que ça serait transgresser mon alliance. Kiani Hashem Elohem, car je suis l'Éternel, leur Dieu. Donc, pendant le temps de l'exil, il y a une promesse. Bien qu'il y ait une accumulation incroyable de haine des nations contre nous, la Shoah n'est pas possible. Et puis, quand on revient, eh bien la Hashgaha, la Providence, revient en Eretz Israël. Mais quand vient le moment où elle cesse son action en Galoute pour passer en Eretz Israël, il y a un moment de vide. Dans ce moment de vide, il y a ce qu'on appelle les forces du hasard, le Hefker. L'abandon est possible. Et c'est là que ces forces peuvent se déchaîner. Donc c'est le moment où il faut faire attention. Ça veut donc dire quoi ? Que la Shoah n'est pas une punition de quelque chose. Elle est simplement une exposition. Et on est exposé au danger à ce moment. Mais c'est évitable. Il y a, dans le Tanakh, dans la Bible, il y a un livre consacré à ça. À une Shoah qui a été évitée. Hein ? Je ne comprends pas. Oui, le livre d'Esther. Le livre d'Esther, c'est le récit qui nous est fait d'une tentative d'extermination totale du peuple juif, et cette tentative a échoué. Et ça s'est passé à quel moment ? C'est au moment entre le début du retour des exilés au temps de Cyrus et Zorobabel, et la fondation du Beth Amikdash, du deuxième temple, par au temps de Dariavesh, dans l'intervalle entre les deux, est arrivé Haman. C'est là qu'il a essayé. Donc nous avons, ça correspond tout à fait à la règle. Souviens-toi de ce que te fait Amalek quand tu es en chemin. D'accord ? C'est-à-dire que Amalek peut apparaître. Mais c'est une exposition seulement, tu peux l'éviter. Oui ? Je n'ai pas compris. Ils ont fait Teshuva. Non, ils n'ont pas fait Teshuva. Ils ont fait autre chose. Ils se sont réunis. C'est donc là la clé. Qu'est-ce qu'a dit Esther ? Esther a dit à Mordechai, réunis tous les juifs qui sont à Shushan. Kenos, c'est ce que la Yehudim. C'est-à-dire l'unité dans le peuple peut servir de bouclier au danger. Se réunir. Sinon, il y a quelqu'un d'autre qui nous réunit dans les trains. D'accord ? Mais cela est possible. C'est donc important de comprendre que cela peut se passer, mais que cela est évitable. Et donc, ça aurait pu être évité si, au moment du retour, on avait rapidement fait ce qu'il faut. Il y a, dans les prières, quand on parle de la Géoula, on dit que, on demande que la Géoula se fasse vite. « Maher le Géoleno ». On ne demande pas que l'exil finisse vite. Mais on dit qu'au moment où ça se passe, il faut que ce soit vite, parce que c'est le moment dangereux. Il y a une tradition des élèves du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna a dit à ses élèves qu'au moment où commencera la rédemption d'Israël, il faudra de toute urgence faire transférer en une seule fois 600 000 juifs en Eretz Israël. Et le Gaon disait, si on ne le fait pas, il va se passer des choses terribles. Et il pleurait quand il disait cela. C'est très rare qu'un juif de Lituanie, un rabbin de Lituanie, se mette à pleurer. Ça ne se fait pas. N'est-ce pas ? Hein ? Il a dit qu'il faut qu'il y ait 600 000 juifs en une fois qui soient transférés. À la veille de la Shoah, il y avait en Eretz Israël 400 000. Lors de la fondation de l'État d'Israël, il y avait en Eretz Israël 600 000. Le fait est là. Le fait statistique est là. Parce que nous avons une tradition, c'est le Rav Kook qui le dit, que lorsqu'il y aura 600 000 juifs en Eretz Israël, ce sera le moment de la Géoula. Ben, ça s'est passé. Il y a eu 600 000, et alors l'État d'Israël a été fondé. Mais il y a un intervalle. L'intervalle est dangereux, il est court. Voyez-vous ? Bon. Je voudrais vous citer ici un enseignement très important du Ramchal. Rabbi Moshe Chaim Lutzato. Rabbi Moshe Chaim Lutzato a écrit combien de livres d'après vous ? 80 livres. Disons que de nos jours, nous avons à peu près une quarantaine. Une quarantaine a disparu. Enfin, 40 livres, c'est quand même pas mal. Rabbi Moshe Chaim Lutzato, parmi ses ouvrages, a un livre très important, un petit livre, mais très important, qui s'appelle Ma'amar HaGeoula, le traité de la rédemption, dans lequel il explique, en termes kabbalistiques, comment est-ce que la Géoula d'Israël doit apparaître. D'accord ? Ça a été écrit il y a 250 ans. Je crois que c'est antérieur à la Shoah. Et là-bas, il a trois pages dans lesquelles il explique la Shoah. Il en parle de manière très très claire. Il dit la chose suivante. Il dit qu'il y a dans le monde deux formes de providence, l'une qu'on appelle le portail et l'autre qu'on appelle les fenêtres. De nos jours, Windows. Rien à voir. Et en hébreu, char et halonot. Alors, bon, c'est un langage figuré. Il faut s'habituer au langage figuré des kabbalistes, mais on peut comprendre ce qu'ils veulent dire. Il dit, pendant le temps où Israël était sur sa terre, et qu'il y avait le Beth Amikdash, et que tout allait bien, il y avait un grand portail, char, dit-il, qui était ouvert. Et ce portail laissait passer de la lumière pour inonder le monde de lumière. Tout allait bien. C'est-à-dire, ça s'appelle la corne d'abondance, si vous voulez. Il y avait une grande influence divine dans le monde. Et puis, quand est venu l'exil, la destruction du temple, le portail s'est fermé. Mais s'il est fermé, le monde serait détruit. Alors, il a été remplacé par des fenêtres. Plus précisément, des lucarnes, il dit. Il y a des petites lucarnes à travers lesquelles la lumière continue de passer. Et c'est ça dont il est dit dans le livre de Shira Shirim. Mashgiach minachalonot, metzitz minacharakim. Il observe à travers les fenêtres et il épie à travers les fentes. Mashgiach minachalonot, metzitz minacharakim. C'est-à-dire que le monde continue, ça marche, de manière beaucoup plus, exécrable, ça va très mal, mais enfin, ça tient. Et puis arrive le moment, dit-il, où la porte va être à nouveau ouverte. C'est le moment de la Géoula. Mais il y a un principe qui est En Malchut Nogad Vechaverta Kimomin Nima. Une royauté ne touche pas à l'autre royauté, même de l'épaisseur d'un cheveu. Et donc il faut en finir avec les fenêtres avant d'ouvrir la porte. Et alors, ce qu'il dit, c'est que, à l'approche de l'ouverture de la porte, le portail, les fenêtres vont être fermées. On va les fermer les unes après les autres. D'accord ? Et donc, vous voyez donc l'image, on ferme les fenêtres. Et alors, il y a moins de lumière. Jusqu'au moment où on ferme la dernière. Alors, c'est l'obscurité totale. Il dit, oui, mais attention, s'il y a obscurité totale, le monde va être détruit. Donc, la porte est immédiatement ouverte. Donc, il n'y a pas, entre les deux moments, d'espace. Il dit, oui, ça c'est vrai dans le monde supérieur. Dans le monde supérieur, les choses se font de manière parfaite. La dernière fenêtre est fermée, et juste à ce moment-là, le portail est ouvert. Mais, dans le monde d'en bas, ça se traduit par un temps. Ça prend du temps. Et donc, il y aura un temps qui n'est pas très long, dit-il, mais qui sera terrible, dit le Ramchal. Et c'est de ce moment-là dont il est dit « Lama Hashem ta'amod berachok »« Pourquoi, ô mon Dieu, tu te tiens loin ?» Et c'est ça dont a parlé Moshe quand il disait « Que viendra un temps à la fin des temps où ça ira très mal ?»« Batar lecha bacharit ayamim » etc. Et donc, ça a été prévu. Le Ramchal en parle. Il dit « Il y a un moment, il faut faire très attention. » D'ailleurs, même pendant... Je ne sais pas si vous avez lu ce qu'on a raconté de la Shoah dans la littérature qui parle de ça. La période où beaucoup de monde, finalement, a été emporté, c'est une période extrêmement courte. Elle n'a pas duré plus d'un an. C'est-à-dire le moment le plus terrible de l'extermination, c'était une période relativement courte, enfin, qui était terrible, et c'était le moment où il fallait faire attention, le plus. Et dans chaque pays, c'était un peu un moment différent. Des gens qui ont passé la Shoah pourront vous raconter ces choses-là. Et donc, il y a ce moment-là, et alors ça veut dire que c'est une punition, non ? Ça veut dire que c'est le moment où il faut faire attention. D'accord ? Ça, c'est le premier point que je voulais mettre en évidence. Maintenant, je voudrais, avec votre autorisation, continuer un peu pour parler d'un problème extrêmement important, qui est ce qu'on appelle la responsabilité de la Shoah. Qui est responsable ? Alors, évidemment, on fait d'énormes gaffes là dans cette histoire. On a l'habitude de dire, c'est le responsable, mais c'est Akadosh Baruch Hu, le responsable, c'est les rabbins, le responsable, c'est le peuple, le responsable, c'est... etc. On oublie toujours une chose très importante, c'est que les responsables, c'est les Allemands. Oui, c'est vrai, hein, c'est important de savoir. Tout d'abord, il y a les criminels eux-mêmes. Hein. Bon, c'est eux qui ont fait ça, oui. Alors ça aussi on dit, il y a des responsabilités des nations. Les Américains auraient pu bombarder Auschwitz, etc. D'accord, mais il y a les nazis. Il ne faut jamais oublier ça. C'est-à-dire, quand on parle de responsabilité, il y a une échelle de la responsabilité. Il faut toujours savoir que l'assassin, c'est lui le responsable. Après, on peut parler d'autres responsabilités, des collaborateurs, de la victime, parfois on dit. Il y a une responsabilité de la victime. D'accord, peut-être, mais d'abord il y a l'assassin. Oui. Même quand Dieu envoie une nation pour punir Israël, la nation qui a été envoyée, elle va payer. C'est-à-dire, c'est très important. C'est-à-dire, si par exemple, quelqu'un méritait d'être jeté dans un quartier où il y a des criminels, hein, voilà, ta punition, si on va te jeter sans défense dans un quartier où il y a des criminels. D'accord ? Qui c'est le responsable de l'assassinat finalement ? Ben, c'est les criminels. Encore plus que la personne qui l'a jeté là-bas. Ça ne veut pas dire que la personne qui l'a jeté là-bas n'a pas sa responsabilité. D'accord ? Il faut savoir donc faire des gradations, et c'est important de ne pas perdre l'échelle morale dans cette histoire. Jusque-là, vous me suivez ? Oui. Oui. Ah, bien sûr qu'il a fait ça par son libre arbitre. Les nazis, Hitler, et Marchemo, etc., et tous les autres, chacun était libre de faire ou de ne pas faire. C'est-à-dire, même si l'événement au niveau de la marche de l'histoire peut être prévu ou à son sens, etc. Mais chacun individuellement, il a sa responsabilité. C'est ça ? C'est ce que dit le Rambam d'ailleurs. C'est ce que dit le Rambam quand il parle des Égyptiens. Quand Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, tu sais, ta descendance sera esclave dans un pays étranger, etc. Alors pourquoi est-ce que Dieu a puni les Égyptiens ? Rambam dit parce que chacun individuellement pouvait ne pas participer. Oui ? Il y a un verset dans Michelet où il semble ressortir que les rois des nations n'ont pas de libre arbitre. Alors, bon, il y a différents commentateurs à ce propos. Mais même si tu dis que le roi lui-même n'a pas son libre arbitre, il a choisi d'être roi. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, par exemple, pour le pharaon. Maïmonide dit que pharaon a été puni parce qu'il a commencé librement, même si par la suite, il avait perdu son libre arbitre. Et bon, revenons donc à notre sujet, et au niveau de la responsabilité. Une responsabilité dont il faut parler, qui est absolument véritable, c'est ce qu'on appelle l'antisémitisme. Alors, l'antisémitisme, bon, c'est vieux comme Israël. C'est depuis qu'il y a le peuple juif, il y a une opposition au peuple juif. Bon. Il y a des raisons à cela. Le Maharal de Prague explique de manière très profonde pourquoi vient cette opposition. Il y a une sorte de quelque chose d'ontologique qui fait que le fait d'être à part entraîne le rejet. Si je me mets à part, je suis rejeté. Mais non, je me suis mis à part, pas pour rien. C'est en faveur des autres que je me suis mis à part. Mais le fait, cette nécessité d'être à part, crée une opposition. Enfin, il y a différents types d'opposition. Certains nous ont exilés, certains nous ont assassinés, certains nous ont asservis. Il y a différentes, certains nous ont persécutés religieusement. Il y a différentes manières de s'opposer à Israël. Mais il y a un type très particulier d'opposition à Israël, c'est le christianisme. Il y a eu, dans l'histoire de l'Europe, une alimentation très importante de l'antisémitisme par le christianisme pour des raisons théologiques. La raison théologique, c'est que Israël a été accusé d'être déicide, d'avoir tué Dieu. C'est quand même assez grave, de tuer Dieu. Et surtout, la prétention de la chrétienté de remplacer Israël, tout ça, ce sont des choses très graves. Et il y a quelque chose qui s'est passé, c'est qu'au cours des siècles, il y a eu une accumulation de haine. On voit d'ailleurs, on peut lire chez les pères de l'Église, ce qu'ils disent des Juifs. Et quand on lit ce que les pères de l'Église ont écrit du judaïsme, on s'étonne d'une chose. C'est pourquoi est-ce que la Shoah n'a pas eu lieu de leur temps. C'est-à-dire qu'avec tellement de haine, comme on dit, pourquoi tant de haine? Alors pourquoi ça a attendu le XXe siècle? N'est-ce pas? Eh bien, il y a quelque chose de très particulier dans le christianisme. Il y a une barrière théologique qui empêche de faire la Shoah. La barrière théologique est assez surprenante, mais c'est un principe du christianisme qui est que l'humiliation des Juifs doit servir éternellement de preuve de la véracité du christianisme. C'est-à-dire, les Juifs doivent continuer à exister parce que leur humiliation prouve que Jésus avait raison. Donc c'est important que les Juifs restent en tant que peuple témoin. Donc, théologiquement parlant, la Shoah n'est pas réalisable par le christianisme. Mais il y a ici un problème. C'est que d'une part, il y a accumulation de haine, mais d'autre part, il y a une barrière théologique. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? Eh bien, on supprime la barrière théologique. Mais comment la supprimer? Non. En passant au stade laïque de l'Europe. C'est-à-dire, l'Europe, à un moment, a abandonné le christianisme officiel. Elle est devenue laïque. Elle est devenue laïque, et donc elle s'est libérée des entraves théologiques, mais elle a hérité de la haine. Le premier qui a annoncé la Shoah était un Français du surnom de Voltaire. Vous avez entendu parler de lui? Voltaire. Ouais. François Darouet, c'est son vrai nom. Enfin, en tout cas, donc Voltaire a écrit qu'il faut donner la liberté aux gens. Il faut émanciper les Européens. Tous. Sauf les Juifs. Parce que les Juifs sont irrécupérables. Et donc, ce qu'il faut faire, il ne faut surtout pas leur donner des droits. Parce que ça, c'est la pire des espèces de l'humanité. Et puis, vous allez un peu plus loin, vous avez un des fondateurs du nationalisme allemand. À l'époque napoléonienne, il s'appelait Johann Fichte. Johann Fichte a déclaré que les Juifs n'étaient pas émancipables, à moins de leur couper à tous la tête et de la remplacer par une autre tête dans laquelle il ne resterait aucune idée juive. ou bien de les renvoyer dans le désert d'où ils sont venus. Intéressant. Alors, si vous prenez toutes ces données-là, et tout ça, il s'agit justement des fondateurs de l'Europe non ecclésiastique. C'est-à-dire, à partir du moment où l'Europe cesse d'être fidèle à sa foi, elle peut se permettre de faire la Shoah. On pourrait dire, si on faisait un peu de psychanalyse, que dans le subconscient collectif de l'Europe, il a fallu passer du christianisme à la laïcité pour pouvoir faire la Shoah. Maintenant, je vais vous dire, tout ça, c'est écrit dans la Torah. Il y a, dans le livre de Bereshit, un verset surprenant. Le frère de Yaakov, c'est quand même tout Israël, en une personne. Le frère de Yaakov s'appelait Esav. Esav déclare qu'il veut tuer son frère. Donc il veut lui faire la Shoah. Mais comment est-ce qu'il le déclare? Il dit comme ça. Vayomer Esav. Esav dit, Yikrevu yeme evelavi. Ils sont proches les jours du deuil de mon père. Ve'aharga et Yaakov achi. Et alors je tuerai Yaakov, mon frère. Vous avez remarqué, c'est très surprenant, dans une déclaration d'intention de meurtre, il y a ici deux éléments qui empêchent le meurtre. Tout d'abord, il dit, il faut que j'attende la mort de mon père. Ça veut donc dire que tant que Yitzhak est en vie, je ne peux pas le faire. Quelque chose l'empêche. Et en plus de ça, il dit, je vais tuer Yaakov, mon frère. Il se rappelle à lui-même que c'est son frère. Il y a une fraternité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Esav voudrait bien tuer Yaakov, mais il ne peut pas le faire parce que c'est son frère. Parce qu'ils ont un père commun. Effectivement, la chrétienté, elle a un père commun avec le judaïsme. Ça vient du même tronc, ça vient de la Bible. Donc, on ne se tue pas en famille. Donc, c'est là que Esav a déclaré qu'il y avait une barrière théologique qui l'empêchait. Mais, Esav a un fils qui s'appelle Eliphaz. Eliphaz est envoyé, d'après le Midrash, est envoyé lorsque Yaakov prend la fuite. Esav envoie Eliphaz pour tuer Yaakov. Il dit, moi je ne peux pas le faire, mais toi tu vas le faire. Et Eliphaz arrive auprès de Yaakov et il dit, voilà, je suis venu te tuer, mais je ne peux pas, parce que tu es mon maître. J'ai appris chez toi la Torah. C'est-à-dire, c'est à nouveau le même principe. Le christianisme a une dette envers le judaïsme. Et alors, il dit, bon, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, il faut quand même que je respecte mon père qui m'a dit de te tuer. Eh bien, tu sais quoi? Je vais prendre ton argent. C'est-à-dire, c'est la persécution, l'humiliation. Je vais prendre ton argent, c'est comme si tu étais mort. Et puis après, Eliphaz épouse une concubine. Il vit en concubinage avec Timna. Timna est une princesse du peuple Hori qui voulait être accepté, se convertir auprès d'Abraham, et qu'Abraham a refusé. Yitzhak a refusé, Yaakov a refusé. Alors, de frustration de ne pas être Israël, elle devient la concubine d'Éliphaz et elle lui donne comme enfant Amalek. Et Amalek, lui, il hérite donc de la frustration de sa mère, de la haine de son grand-père, mais il n'a plus les sentiments de proximité familiale qui l'empêchent de tuer Yaakov. Et donc c'est lui qui va tenter de détruire Israël. Et bien on peut dire c'est exactement ça. C'est-à-dire, Esav, chrétienté, va donner naissance, en fin de compte, à l'Allemagne non chrétienne, mais nazie, qui va accomplir le projet secret de la haine chrétienne. C'est-à-dire quand vous dites aux christianistes, à des chrétiens, mais vous savez, vous êtes responsable de la Shoah, ils disent, mais pas du tout, au contraire, c'est contraire à la charité chrétienne. C'est contraire à notre théologie. Effectivement, le nazisme a été condamné par des autorités ecclésiastiques. Mais il y a une responsabilité d'avoir colporté cette haine. Et c'est ça qui est devenu la Shoah. D'accord ? Oui ? Ah, pourquoi est-ce que Timna a été refusée ? Oui, alors il y a un problème. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas accepté Timna? Surtout que la Gemara, là-bas, dit quelque chose de très dur. Elle dit, ils auraient dû l'accepter. Alors, la question que posait Manitou quand il a enseigné ce texte, c'est que ceux qui se permettent de faire des remontrances au Avot, c'est qui? Ce sont des Amoraïm, les sages de la Guémara. Et jamais on a vu un Amora critiquer un Tana, ou un Tana critiquer un prophète, ou un prophète qui critiquerait les Avot. Et là, le dernier Amora se permet de critiquer les Avot, il y a de quoi faire monter la moutarde au nez des Avot. D'accord? Quand un Amora se permet. Et c'est très bien, vous avez donc le sens de l'humour aujourd'hui. Et en fait, la réponse c'est que le Amora, le sage de la Guémara, il a raison à son époque, et les Avot, ils avaient raison à leur époque. Parce que pourquoi refuser Timna? Pourquoi refuser quelqu'un qui est candidat, après tout, hein? Quelqu'un veut enfin devenir juif, ça vaut la peine, non? Et donc, c'est parce que probablement qu'ils ont ressenti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas l'ishma, qui n'était pas pur dans son intention. Mais même si c'est pas pur, il y a une grande règle qui est « mitor shelo lishma va lishma ». Quand on commence de manière intéressée pour arriver à être désintéressé. Mais ça, c'était possible une fois l'identité d'Israël déjà née. C'est-à-dire, quand Israël existe, alors nous avons assez de force pour intégrer en nous même des conversions mal intentionnées au départ qui par la suite vont s'améliorer. Mais au temps des Avot, l'identité d'Israël était en élaboration. Donc on ne pouvait pas accepter Timna. Parce que qu'est-ce qu'elle voulait Timna? Elle voulait se marier. Mais avec qui? Avec Abraham, à la place de Sarah. Avec Yitzhak, à la place de Rivka. Avec Yaakov, à la place de Rachel. Elle a dû vivre assez longtemps. Ça veut dire que... Et après, elle est devenue la concubine du fils de Esav. D'accord? Ça veut donc dire que... Timna, ça veut dire l'empêcher. En hébreu. Ça veut dire que... Étant donné que... Pour fonder la nation, l'identité d'Israël, il faut 3 générations. Obligatoirement, ça va entraîner un désir de s'associer qui n'est pas toujours pur. Et donc, obligatoirement, ça va engendrer Amalek. On peut donc dire que Amalek est la résultante obligatoire de l'émergence d'Israël dans l'histoire. Oui ? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est très clair, c'est que nous ne sommes pas les enfants de Yitzhak, nous sommes les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est-à-dire que si Abraham avait été lui le fondateur d'Israël, alors elle aurait épousé Yitzhak. D'accord? Mais ce n'est pas le cas. Israël s'est formé de 3 identités à la fois, une conjugaison, une synthèse. Et donc, ça ne peut engendrer que Amalek, finalement. Oui? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas le choix. Hein? C'est-à-dire que... Oui. À des moments de retour. Oui, alors c'est-à-dire que... Oui, alors ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une recrudescence de phénomènes qui rappellent un peu ce qui s'est passé à la veille de la Shoah. C'est vrai. Mais étant donné que tout cela est focalisé autour de l'État d'Israël, c'est un autre type de conflit qui est en train de se former. C'est ce qu'on appelle traditionnellement la guerre de Gog et Magog. Mais ça fait différent. C'est-à-dire que c'est contre un État. C'est Israël qui est devenu État. Et donc, la relation, c'est d'État à État. Et donc, il y a une puissance. C'est-à-dire, même si quelqu'un tente la Shoah, on est là, non? Il y a Tsahal. Bien sûr qu'ils sont en danger, mais il y a quand même Tsahal. D'accord? Oui. Si l'Iran se procure la bombe et jette la bombe, c'est pas la Shoah. C'est une guerre atomique. C'est pas la même chose. C'est à nouveau... Ça veut dire qu'il peut y avoir des catastrophes. Les catastrophes sont possibles, malheureusement. Mais c'est un type différent de relation. C'est-à-dire, ce qui s'est passé dans la Shoah, il faut bien comprendre. Il y a eu un investissement énorme de la technologie la plus avancée de l'histoire contre la victime la plus pure de l'histoire. C'est comme ça que ça doit être, que c'est compris. Il faut comprendre ça. Ce n'est pas ce dont il est question maintenant. D'accord? Voilà, c'était simplement quelques notes, quelques remarques sur la Shoah. Il y aurait évidemment beaucoup de choses supplémentaires à dire, mais étant donné que nous sommes dans les temps qui nous sont impartis, nous allons devoir donc passer aux informations. Voilà, c'est tout.